Voilà, nous lisons Luc 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ?» Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ces deux premières paraboles sont là pour nous expliquer quelque chose d'irrationnel. C'est que Dieu, lui, s'intéresse même au petit nombre, parce que notre vie scientifique humaine nous habitue à l'importance du grand nombre. Et la démocratie est là pour nous le montrer. La démocratie, c'est que c'est le grand nombre qui choisit quelque chose et tout le monde suit. Donc, le nombre a une importance dans notre fonctionnement. Mais ces deux premiers exemples sont là pour nous dire ceci. Dieu s'intéresse même à une seule personne. Parce que logiquement, le monsieur qui avait 100 brebis pouvait se dire, « Bon, j'en ai 99 encore, c'est bien. » Même si j'ai perdu une, c'est pas grave. L'idée qui est là, c'est nous dire, la seule brebis perdue a la même importance que les 99. C'est pour te dire aussi, toi qui te dis, bon, même moi si je m'éloigne de Dieu, je suis mauvais, je m'intéresse pas à lui, il y a déjà des gens qui le font. Dieu est satisfait du nombre des gens qui croient en lui. Non, Dieu te veut aussi toi, parce qu'il t'aime aussi toi. Cette parabole, cet exemple de 100 brebis, de 99 qui sont en sécurité et la seule qui n'est pas en sécurité, qui est même perdue, donc on ne sait pas où elle est. Donc quelqu'un pourrait dire, mais ça va mettre du retard au fonctionnement du troupeau. Mais non, Dieu, il aime tellement même la seule brebis qui est perdue, qu'il préfère mettre du retard dans les 99 pour aller récupérer la seule. Donc, ne te dis pas dans tous les cas, comme parfois on le dit, il y en a d'autres qui s'en occupent, il y en a d'autres qui sont dans Dieu. Non, Dieu veut que toi-même, tu sois à lui. Il veut de toi individuellement, tu as la même importance que tout le grand nombre qui croit déjà. Dieu s'intéresse à toi. Voilà les deux paraboles, leur objectif, c'est de te dire, Dieu s'intéresse à toi, même si tu es seul dans ton coin, Dieu s'intéresse à toi. Comme on vient d'écouter le témoignage, Dieu continue à s'intéresser à notre sœur, même si elle était contre Dieu, elle s'était rebellée contre lui, mais Dieu aime chaque humain. À tel point que Jésus a été crucifié pour chaque humain. Donc même s'il n'y avait qu'un seul homme sur terre, Jésus serait quand même crucifié pour cela. Et Dieu a payé un tel prix qu'il ne peut pas retirer son amour. Son amour va avec le sacrifice qu'il a accompli en laissant son fils être crucifié pour nous. Et la dernière parabole qu'on va lire, le dernier exemple, concerne le fils perdu. Il est écrit, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. » Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Il est écrit dans Jean 6, 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le Seigneur dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Ce garçon, c'est l'histoire de tout humain, l'histoire de ce fils perdu. C'est l'histoire que nous venons d'entendre de notre sœur. À un certain moment, chaque humain croit qu'il est Dieu, croit qu'il est fort et décide de se débrouiller tout seul. Malheureusement, même ceux qui prétendent être chrétiens, beaucoup se débrouillent tout seuls. Ils n'ont pas de Dieu. Ils n'ont Dieu que comme une histoire de religion, comme quelque chose bon, de vague. Avec certains même connaissent la Bible. Mais connaître la Bible, le diable aussi connaît la Bible. Mais ce que Dieu attend, c'est l'obéissance. Il a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux savoir tout ce que tu peux faire tous les sacrifices que tu veux, venir dans l'église, faire ce que tu veux, mais est-ce que c'est Dieu qui est ton chef? On le saura. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui pratique mes commandements. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, on est pasteur, on est docteur, mais si ce qui est écrit, nous n'obéissons pas à cela. Est-ce que réellement, nous le sommes? Non, nous ne le sommes pas. Nous ressemblons à ce fils qui, à un moment, a décidé de se débrouiller tout seul. Et beaucoup se débrouillent tout seul. Dieu, c'est juste pour la forme. Mais en réalité, en pratique, ils font seuls ce qu'ils veulent. Et à notre siècle, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a eu cette prédication-là sur la prospérité qui a rendu encore les hommes égoïstes. Ces prédications sur la prospérité font que les hommes ne pensent qu'à eux. Dieu, c'est leur banque, c'est leur hôpital, c'est leur partenaire pour le succès sur terre. Ce n'est plus le Père que nous cherchons tant dans nos cœurs, mais c'est devenu un partenaire commercial, économique. C'est ce que Dieu est devenu aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de chrétiens dans les églises. Parce qu'ils n'ont pas le véritable évangile. Parce que l'évangile, ce n'est pas Dieu est notre partenaire économique. Dieu, c'est le Père de Jésus-Christ qui a pris conscience de notre détresse, de notre souffrance, et il a envoyé son Fils pour nous réconcilier à lui. Effectivement, quand on est réconcilié à lui, tout le reste nous avons, parce que tout appartient à notre Seigneur, tout appartient à notre Père. C'est clair, l'apôtre Paul dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Nous manquons, nous n'avons rien, mais en même temps, nous avons tout. Parce que si tout appartient à notre Père, ça nous appartient aussi, mais notre Père ne nous donne pas forcément ce tout-là pour l'utiliser, mais nous avons tout en puissance, nous avons tout au ciel, et à chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, la porte du ciel s'ouvre pour que nous recevions la chose. Ce n'est pas un partenaire économique commercial dont nous allons profiter, et ça fait que de plus en plus, il y a des gens qui vivent par eux-mêmes. Et ce garçon a décidé de vivre par lui-même. Il avait l'impression que obéir à Dieu, obéir à son Père, vivre dans la direction de son Père, ça le freinait. Et beaucoup ont cette impression-là, que vivre en obéissant à Dieu, vivre dans la logique de dépendance au Saint-Esprit, c'est un frein. Ils veulent toucher. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas du robinet, il préfère des tonneaux d'eau. Parce que le robinet, on ne sait jamais, on peut ouvrir, ça ne va pas sortir peut-être. Mais les tonneaux, les bidons d'eau, nous les avons devant nos yeux. Mais le problème, c'est que les bidons d'eau, les tonneaux, même s'ils sont au nombre de 1 million, un jour, ça finira. Mais le robinet, nous avons par la foi la garantie que l'eau coulera toujours. Mais il faut avoir foi. Parce qu'il n'y a aucune sécurité. Nous ne voyons pas l'eau derrière le robinet. Les tonneaux, on les voit, mais le robinet, l'eau derrière, on ne voit pas. C'est loin, dans un château d'eau. Nous, on a la foi en l'État, en notre gouvernement, on se dit, ils sont sérieux, il y aura toujours de l'eau. Et les gens ne veulent plus vivre par la foi, ils veulent vivre par la vue. Il faut qu'il y ait des choses. Et beaucoup ont décidé de se débrouiller par eux-mêmes. Mais nous parlons aussi à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Dieu dans leur vie pour dire, on a l'impression que loin de Dieu, c'est la liberté, c'est faux. Loin de Dieu, c'est l'esclavage. Et c'est un esclavage sans pitié. Au moins, Dieu nous demande la permission pour travailler en nous. Il nous demande la permission pour collaborer avec nous. Mais le péché ne demande pas la permission. Le péché, ça te pique et ça te tue. Ça ne te lâche pas. Au début, c'est toi qui décides de fumer. Après, quand tu veux décider d'arrêter de fumer, c'est la cigarette qui refuse. Et tu te rends compte qu'elle est devenue ton maître. Mais au début, c'est toi qui avais décidé. Au début, c'est toi qui avais décidé d'aller voir des féticheurs, voir des médiums. Comme l'histoire de cette dame qui était devenue médium, canalisatrice américaine. Au début, c'est elle qui a fait ses contrats avec des esprits pour être canalisatrice, médium. Mais ces esprits-là ont commencé à déranger sa vie. Ces esprits ont commencé à lui imposer qu'est-ce qu'elle devait manger. Ces esprits ont commencé à lui parler pendant qu'elle, elle parlait à d'autres personnes dans la vie courante. Ce qui fait qu'elle était obligée de parler à deux à la fois, des gens vivants en face de lui et en face d'elle et des démons dans sa tête, dans son esprit. Et elle devenait folle au regard des humains. Mais en réalité, c'est qu'elle parlait à deux mondes. Donc les humains ne comprenaient pas qu'elle parle. Mais oui, parce que les autres lui parlaient, elle devait répondre. À un moment, elle a dit, non, je suis fatiguée. Elle a appelé ces esprits-là. Elle leur a dit, écoutez, on se sépare à l'amiable. Et les esprits ont donné l'impression qu'ils étaient tristes. Il y en a même un qui a pleuré, je crois. Et ils sont partis. 5 minutes après, ils sont revenus en puissance maintenant, en colère. Ils ont dit, tu croyais que tu allais te débarrasser de nous comme ça? Et c'est là que l'esclavage de cette femme-là a commencé. C'est là que là on lui a imposé de ne manger que la pâte d'arachide et le pain de mie. Donc tu veux manger le poulet, on te dit non, pas d'arachide, pain de mie. Sinon, il t'embête tellement que tu dois céder. Sa vie a été une galère. Et c'est la vie avec le diable. Au début, il semble que c'est toi qui décides. Ce n'est que le début. Parce qu'il a besoin d'une petite permission de ta part quand même. Même s'il viole souvent les gens, même s'il manipule, il a besoin d'un minimum. Parce que sinon, nous tous, nous serions détruits s'il avait la capacité de tout détruire. Mais il a quand même besoin d'une petite autorisation de l'homme. Mais qu'il peut obtenir par la manipulation, par le mensonge, mais il a besoin d'une petite autorisation. Dès qu'il a la petite autorisation, lui, il en profite pour faire plus. Comme les contrats d'assurance où c'est écrit en petit, dans certains endroits, tu ne vois pas tout. Le diable, c'est comme ça. Et dès qu'il a la petite autorisation, toi, tu te dis, je gère le mal. Lui te dit, on va voir si c'est toi qui gères ou c'est moi qui gère. On a vu comment DSK, Dominique Strauss-Kahn, a loupé la présidence. Alors qu'il le savait, une semaine avant, il avait répondu lors d'une interview en disant « Là où on peut me coincer, ça sera au niveau des femmes ou au niveau… » J'ai oublié, c'était un autre problème. Donc, il a cité deux affaires, deux problèmes qu'il a dans sa vie. Ah oui, ma judaïté. On peut m'attaquer par rapport à ma judaïté parce qu'il est d'origine juive. Hein? Ou alors… On peut m'avoir en me piégeant avec une femme. Il l'a dit une semaine avant. Donc, intellectuellement, selon son cerveau, selon son intelligence, il était bien conscient que là, on peut m'avoir. Mais son intelligence n'a pas suffi pour lui donner la puissance de résister à la tentation. C'est pour nous dire que avec le diable, c'est toi qui commences, mais c'est lui qui a le dernier mot. Parce qu'il savait bien que c'est par là qu'on allait l'atteindre. Mais ça ne l'a pas empêché de tomber encore et de rater la présidence de la République. C'est pour nous dire l'impact du péché. Au début, c'est toi qui commences. Mais après, c'est toi qui es contrôlé. Au début, tu te crois libre parce que tu as l'impression que ceux qui sont avec Dieu sont limités. Ils ne sont pas limités. Ils ont trouvé une autre source de joie. Tu te dis que toi, tu penses qu'ils sont limités parce qu'ils ne font pas toutes les bêtises du monde. Mais non, ils ont trouvé une autre source de joie. C'est tout. C'est comme quelqu'un qui a trouvé une autre façon de manger, d'autres plats. Donc même s'il ne mange plus, le plat qu'il mangeait avant, mais il est toujours heureux parce qu'il mange, mais il mange autre chose. Donc l'enfant de Dieu mange autre chose. Il mange la joie, il mange la paix par le Saint-Esprit, il mange la parole de Dieu, il mange la présence de Dieu, c'est une vraie nourriture. Jésus a dit, je suis une vraie nourriture. Mais ça donne l'impression à un observateur extérieur qu'il est privé, il n'est pas privé. Il a trouvé la vraie source de la vie. Celle qui ne corrompt pas, celle qui ne détruit pas. Comme c'est écrit dans Proverbe, la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction, la fausse bénédiction du diable semble enrichir, mais c'est suivi de beaucoup de chagrins. On a vu comment Hitler a fini, on a vu comment beaucoup de chrétiens qui cèdent, qui ouvrent la porte au diable, comment ils finissent? Au début, ils semblent prospérer, mais ils finissent toujours mal. C'est ainsi que cet enfant-là, à un moment donné, il était fatigué. Parce que le problème pour revenir à Dieu, c'est un problème de fatigue. Parce que c'est écrit dans Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Quelqu'un qui n'est pas fatigué, il ne peut pas venir à Dieu. Quelqu'un qui a encore sa propre force, il ne peut pas venir à Dieu. Et ce qu'on peut prier, c'est que… On peut faire comme prière, c'est dire, « Bon Seigneur, aide-moi vraiment à me laisser fatiguer pour venir à toi. » Parce que quelqu'un qui n'est pas fatigué, même s'il dit « Je crois en Jésus », il va continuer à utiliser toujours ses propres forces. Toujours. Et il tourne en rond. Il faut vraiment être dans la défaite, fatigué, et dire, bon, je ne réussis pas par moi-même. Seigneur, prends-moi et gère-moi. C'est ce que Jésus attend de nous. Et lorsque le fils est fatigué, a été fatigué, parce qu'il commençait à manger moins que les cochons, moins que les cochons, moins bien que les cochons. Il s'est dit, mais quand même, il est écrit dans la Bible, il est revenu à lui-même. Ça veut dire que pendant un temps, il ne réfléchissait plus. Il était dans l'orgueil qui lui faisait dire, « Ah, je suis déjà sorti de chez papa, non, je ne rentre pas, les gens vont se moquer, vont dire, j'ai échoué, j'ai trop parlé. » Entre-temps, qu'est-ce qui se passait? J'arriverai à me reconstruire et à m'enrichir par moi-même. Il luttait encore. Et beaucoup sont dans cet esprit-là. Les gens vont parler, les gens vont se moquer si je reviens à Dieu. Si je me donne à Dieu. Les gens vont dire, c'est parce que j'ai échoué dans tel domaine, c'est pourquoi je suis parti à Dieu. Et ils traînent encore. Je vais réussir, je vais réussir. Et le temps passe. Les gens vont dire, ah, j'ai fait des mauvais choix. Mes amis vont se moquer de moi. Et il y en a qui disent, je ne pourrai pas supporter la vie des enfants de Dieu. Parce qu'il me faut moi l'alcool, il me faut moi la cigarette, il me faut moi les hommes, les femmes, il me faut ça. Sans ça, je ne peux pas vivre. C'est faux, ce n'est qu'une illusion. Tu peux vivre sans ça. Tu peux vivre sans ça, mais tu as besoin de faire confiance au Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. Il faut lui faire confiance. C'est lui qui a fabriqué l'homme. Il sait comment satisfaire l'homme aussi. Alors que ce soit la honte des humains, la mauvaise ambiance environnante qui t'empêche de revenir à Dieu, que ce soit le fait que tu considères que Dieu est trop saint pour toi, il ne pourra pas t'accepter, tu es en tort. Dieu dit, je ne rejetterai personne qui vient à moi. Il ne va pas rejeter. Au contraire, il veut sauver. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. N'attends pas trop longtemps. Accepte que tu es fatigué de te diriger par toi-même. Accepte ça avant que ça arrive jusqu'au cochon. Parce que si cet enfant avait accepté avant, il n'en serait pas là. Les humains sont têtus, bien-aimés. Les humains sont têtus. Cet enfant n'a pas voulu bouger jusqu'à ce qu'il mange moins bien que le cochon. Il pouvait réagir avant, dès que l'argent était fini. Il pouvait dire, ah, j'ai échoué, je vais rentrer chez papa. Non, il avait encore la force. Vous savez, rien que la vie que nous avons, c'est une force. Rien que vivre te donne une impression d'éternité. On ne pense pas qu'on peut mourir quand on vit. C'est comme une force. C'est comme une sorte d'éternité. Mais or, ce n'est pas l'éternité. On voit bien des gens mourir. On voit des acteurs mourir, des chanteurs mourir. On voit des gens mourir. Même des prétendus chrétiens, ils meurent aussi. Mais quand on est encore en vie, on a l'impression qu'on sera toujours comme ça. Quand on était jeune, on pensait qu'on resterait jeune. À courir toute la journée, on sortait le matin pour jouer au football, on venait manger rapidement à midi et on ressortait encore jouer au football pendant 4h, 5h du temps et on revenait dormir à la maison. On croyait que ça allait continuer ainsi, mais ça passe. Mais quand on a cette vie-là, aujourd'hui Jacques Vergès est mort. Mais il y a à peine 3 ans, quand Jacques Vergès te parle, c'est comme s'il allait jamais mourir. Quand il te parlait il y a 3 ans, même notre vie est une source d'orgueil. C'est ce que la Bible appelle l'orgueil de la vie. N'attends pas que les choses deviennent noires pour dire je suis fatigué. N'attends pas. Je suis obligé d'en parler, ce n'est pas pour critiquer des pays, mais c'est comme dans beaucoup de pays africains ou même aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a un faux christianisme. Les gens attendent que la situation devienne grave pour reconnaître qu'on s'est trompé de christianisme. On a vu ça en Côte d'Ivoire avec l'histoire, avec beaucoup de faux prophètes qui ont prophétisé que Laurent Gbagbo allait rester au pouvoir. Les chrétiens, aujourd'hui, au lieu de se repentir et de revenir au véritable christianisme, ils continuent toujours avec les mêmes faux prophètes. Au Congo, pareil. Ils se disent le peuple de Dieu. Malgré le fait que Dieu les frappe, ils continuent à dire comme les Juifs, nous sommes les descendants d'Abraham. Jésus leur a dit, mais vous n'êtes pas des descendants d'Abraham. Vous les êtes physiquement, mais vous n'avez pas le même comportement qu'Abraham. Et les gens, au lieu de dire que si on souffre tant, il y a certainement un problème entre nous et Dieu. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont toujours dit ça à Israël. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, lorsqu'Israël se plaignait, ont toujours dit que c'est à cause de vos péchés. Mais aujourd'hui, les prophètes de ces pays-là, ils disent au peuple, notre pays va devenir le paradis. Donc, il y en a, donc chaque pays, donc le Nigeria va être le paradis. La Côte d'Ivoire va être le paradis sur terre. Le Congo va être le paradis. Et les gens écoutent. Et ils continuent avec la fausse religion. Dernièrement, encore un chanteur est mort. Je ne connais pas les causes. Les gens, au lieu de dire, mais c'est quand même pas normal, nous les chrétiens, éminents comme ça, on commence à mourir comme des oiseaux. Ah non, 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 c'est parce qu'il était contre le gouvernement, on l'a empoisonné. Mais oui, mais la Bible dit dans Marc 16, 17, on prendra des breuvages mortels, rien ne va nous arriver. Au lieu de se poser des questions, de dire quand même, il y a un problème dans notre pays. Non, nous sommes de Dieu, c'est pourquoi on est contre nous. C'est faux. Il y a un problème. Vous attendez quoi pour accepter qu'il y a un problème? Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est devenu la foire. Les pasteurs sont devenus des francs-maçons. De plus en plus, les lois iniques passent. La Cour suprême a fait passer la loi par rapport au mariage homosexuel. Tranquillement, un pays qui était le pilier du christianisme dans le monde. Au lieu de dire, mais tiens, il y a un souci. Nous avons un problème. Les chrétiens d'aujourd'hui se comportent comme les juifs, exactement du temps de Jésus. La faute, ce n'est pas nous, la faute, c'est les Romains. Jésus dit non, c'est le péché chez vous qui est la faute. Il a dit, mais d'ailleurs, vous avez tué tous les prophètes qui sont venus vous dire cette version-là, que c'est le péché qui est votre problème. Vous êtes hors de la volonté de Dieu. Et vous les avez tous tués. Maintenant, le Fils vient, vous voulez encore le tuer. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays africains. Chaque pays africain est devenu la 12e tribu d'Israël. Au lieu de reconnaître qu'il y a un souci, nous ne prions pas Dieu dans la vérité. On commence à appeler les pasteurs papa. Bien-aimé, ce n'est pas la vérité. On est sorti de la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens se débrouillent par eux-mêmes comme ce fils perdu. Mais ils attendent de vivre comme des cochons pour accepter cela. À l'époque, quand Laurent Gbagbo était président, moi, je l'ai vu à la télévision fumer, mais beaucoup de pasteurs allaient faire des veillées là-bas, soi-disant qu'il est chrétien. Tout le monde connaissait sa deuxième femme. Tout le monde connaissait. Mais on disait, on est un président chrétien. Donc les gens disaient, mais on est un président chrétien. C'est faux. On a attendu quoi? Qu'ils perdent le pouvoir pour qu'on comprenne. Mais beaucoup n'ont même pas toujours compris. C'est ça le problème. Qu'on était dans l'erreur. Il était soutenu par les chrétiens camerounais, chrétiens partout, aveuglement. Parce qu'on a changé le christianisme. Revenons à Dieu. Ce texte ne concerne pas que les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus. Ça concerne ceux qui pensent avoir accepté, mais qui en réalité marchent selon leurs idées et non selon la parole de Dieu. Revenons à Dieu. Dieu, il est invisible. George Bush, il est visible. Obama, il est visible. Il donne l'argent visiblement. Mais notre Dieu est plus fort qu'Obama. On a vu comment ils sont en train de souffrir avec un seul individu, Edward Snowden. Un seul individu. Avant, c'était WikiLeaks. Aujourd'hui, c'est Snowden. C'est pour nous dire que ce que dit la Bible, psaume 33, ce n'est pas l'armée qui protège le roi. Vous avez l'armée la plus puissante au monde. Dieu peut vous faire échouer. Revenons à tous ces signes-là sont là pour dire Dieu seul est Dieu. Revenons à Dieu. Revenir à Dieu, c'est accepter de marcher par la foi en ce qui est écrit. Ne pas être impressionné par ce qui est visible, mais suivre ce qui est écrit. Revenir à Dieu, c'est accepter que l'homme est faible. C'est reconnaître qu'on est limité et qu'on a besoin que pour chaque pas de nos vies que Dieu nous conduise. Ne laisse pas l'environnement t'empêcher de revenir à Dieu. L'environnement, ça peut être ton corps. Ton corps semble bien vivant, bien fort. Un athlète, un lanceur de poids français, il mesurait 1m95, 140 kilos. Une vraie montagne. Mais il est mort, bien-aimé. Et il était jeune. Ton corps peut te donner l'impression que tu es bien vivant. Ce n'est qu'une impression. Dieu te regarde en train de mourir. Vous savez, Dieu est éternel. Devant l'éternité, que valent 120 ans? Rien du tout. Hein? Dieu, pour lui, c'est comme s'il regardait un film et nous voit en train de mourir. Nous, on croit qu'on vit, mais lui nous voit en train de mourir. C'est pourquoi il est écrit que celui qui n'a pas Dieu est mort, quoique vivant. Arrête de te débrouiller par toi-même. Reconnais que Dieu seul est ta solution. Et comment on peut arriver à Dieu? C'est par son Fils Jésus-Christ. Jésus a été l'image parfaite de Dieu à travers son enseignement, son comportement. Il y a beaucoup de prophètes, beaucoup d'intermédiaires, entre guillemets. Mais le seul intermédiaire qui ressemble à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et le seul aussi qui a été crucifié pour toi, qui t'a manifesté cet amour-là, c'est lui seul. Vous imaginez cette sécurité-là de cet enfant quand il revient vers son père. Son père l'embrasse, dit « Ah !» On recommence encore à zéro. On va faire une fête. Voilà ce que Dieu te réserve comme accueil. Il ne te condamne pas. Il te demande tout simplement de revenir à lui. C'est tout. Voilà l'accueil qui te réserve. Le Seigneur est plus bon que ton miroir. Ton miroir va te dire toujours qu'il y a une touffe de cheveux qui n'est pas bien placée. Ton miroir va toujours te dire qu'il manque telle couleur à ta chemise ou à ton ensemble. Mais quelle bonne nouvelle de savoir que Jésus t'accepte tel que tu es pour te laver, te purifier et te sauver. Quelle bonne nouvelle de savoir que mon avenir sera pris en charge maintenant par le Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. Quelle bonne nouvelle. Et ça ne demande qu'une seule chose, comme notre sœur a dit, l'humilité, c'est dire, voilà, j'accepte d'être pris en charge. L'homme ne veut pas être pris en charge. Laisse Dieu te prendre en charge. Il y a un chant en anglais, on le connaît aussi en français, mais c'est pas les mêmes mots. Sur toi je me repose, oh Jésus mon sauveur. En anglais c'est safe in the arms of Jesus. C'est à l'abri dans les bras de Jésus. Ça rajoute en anglais dans sa poitrine douce, donc entouré. Donc je me repose, vous savez, comme un enfant, comme David dit dans psaume 130. Je suis comme un enfant sevré. Voilà, psaume 131, comme un enfant sevré. Voilà l'accueil. Ça va avec toutes les difficultés qu'on a sur la terre. Pourquoi ne pas une fois pour tout dire, je vais aller me reposer auprès de Jésus. avec toutes les difficultés, les luttes, les comparaisons, les problèmes de salaire, problèmes de maladie, problèmes de péché, problèmes d'orgueil, problèmes de colère dans la famille, des disputes. Pourquoi une fois pour toutes ne pas revenir dire « Je vais aller me reposer chez mon papa. » Comme cet enfant, à un moment, il est bon. J'y vais. Avec tout ce qu'on nous dit aux infos, les crises, même si tu es riche au milieu de nous, mais tu as quand même peur parce que tu entends parler des crises. Pourquoi ne pas une fois pour tout dire, je vais aller confier mes biens à Dieu. Lui, il va s'occuper de ça. Comme Zachée, il a dit, bon, j'ai trop souffert en escroquant les gens. Je suis devenu riche, mais c'est en escroquant les gens. Je suis devenu riche, mais en faisant, en imposant des taxes aux gens. Il me faut toujours trouver un moyen pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est sans fin. Il a dit, maintenant, j'ai trouvé ce que tout homme, ce dont tout homme a besoin, c'est Jésus. Il a dit, Seigneur, aujourd'hui, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et ceux à qui j'ai volé, je rends en quadruple. Alors, bien-aimé, je me suis toujours dit, mais comment Zachée a eu ce courage-là d'abandonner toutes ses richesses comme ça? Parce qu'il a trouvé mieux. Il a trouvé le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre, qui l'acceptait. Zachée était rejeté parce que quand Jésus allait chez Zachée, les gens critiquaient Jésus. Alors si on a déjà critiqué Jésus puisqu'il allait juste chez Zachée, alors qu'est-ce qu'on pensait de Zachée lui-même? Il n'était pas aimé. Mais pour une fois, qui l'aime? C'est celui-même qui devait le juger. Ah, bien-aimé. Celui-même qui devait le condamner, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui te dit, Zachée, je viens manger chez toi. Dis, mais non, si Dieu est comme ça, je ne vois pas pourquoi je vais continuer dans le péché, dans le mensonge, dans la guerre. Je baisse les bras. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Voilà, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons nous reposer sur toi. Nous refusons de continuer à lutter. Nous refusons de continuer à lutter. Nous avons trop lutté pour être beau, pour être fort, pour être accepté, réussir les études, avoir un bon travail. Nous avons trop lutté pour essayer de justifier qu'on était bon. Alors que toi, tu ne cherches même pas ça. Tu cherches même les mauvais pour les sauver. Alors, nous venons à toi, Seigneur. Nous avons trop lutté. Notre cœur nous reprochait des choses. Et on se défendait par nous-mêmes. Mais l'accusation de notre cœur ne cesse pas pour autant. Mais nous avons appris que toi, tu as été crucifié pour nos péchés. Donc personne ne pourra nous accuser lorsque nous serons avec toi. Tu es celui qui donne le vrai repos, qui guérit l'âme. Merci Seigneur Jésus.